lundi 31 janvier 2022, il vient d'être à 17h. Bienvenue à tous dans cette édition d'information de Studio Kalungu, tout de suite à les titres. La grève du syndicat des taxis Saint-Taxi prévue ce lundi 31 janvier à Niamey n'a pas été suivie selon les constats de nos reporters. Les détails dans quelques instants. Un convoi de véhicules d'orpailleurs transportant 122 kg d'or estimé à plus de 3 milliards de francs CFA a été attaqué samedi dans le nord d'Agadez. Un des porte-parole des victimes témoigne dans ce journal. Dans le magazine Justice de ce lundi, nous verrons ce que prévoit le Code civil nigérien pour qu'un contrat soit valable. Bonsoir à tous, au micro c'est Nafis Adam Sirfo. Le syndicat des taxis Saint-Taxi a déposé un préavis de grève pour ce lundi 31 janvier à Niamey. Seulement, la grève n'a pas été suivie selon nos reporters qui ont sillonné la ville. Le motif principal de cette grève est le paiement des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale. Abdoulaye Matankari Ousmane, vice-président de la CSSTN, détaille les revendications au micro de Zainab Abdou Saïdou.
Ce qui a motivé la grève, tout récemment, la Caisse a fait des contrôles sur les papiers de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il y a des patrons qui ne payent pas aux chauffeurs leur caisse. Ils prennent des indépendants parce qu'il y a deux sortes de caisses. Il y a des indépendants et il y a les caisses payantes. Les payantes, c'est à 25 000 francs chaque 3 mois. Et l'indépendant, c'est 2 000 francs par an. Donc, on te donne l'argent, 25 000, au lieu d'aller prendre. Non, tu préfères payer 2 000 francs pour prendre l'indépendant. La Caisse a fait la remarque. On a actuellement 9 600 taxis dans la ville de Niamey. Et sur les 9 600, il y a 2 000 taxis seulement qui payent la cotisation de la Caisse. Tous les autres sont des indépendants. Ils payent 2 000 francs par an.
Je vous le disais dans les titres, le samedi 29 janvier, les éléments de la garde nationale d'Agadez escortant des véhicules avec à leur bord 122 kg d'or pour une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA ont été l'objet d'une attaque armée par des individus non identifiés à 400 km au nord d'Agadez. L'or provient du site du Djado et appartient à plus de 200 orpailleurs. Ceci était ce matin au gouvernorat d'Agadez pour qu'une solution leur soit trouvée. Yahya Hamza est un des orpailleurs, il est au micro d'Anis et Karim.
Effectivement, nous sommes dans une grande situation que nous ne comprenons pas. Nous sommes des artisans de l'or. Nous avons une organisation. Ils ont trouvé un consensus entre eux et les autorités, ceux qui ont l'habitude de nous amener de l'or. On les paye pour le transport de nos marchandises. Ils quittent de Djado à Agadez. À notre grande surprise, le samedi, environ de 18h, par fuite, on a entendu que le convoi a été attaqué. On s'est précipité à aller voir notre président. Président, vous êtes au courant de ce qui s'est passé? Il nous a dit non. L'opération a été effectuée aux environs de 10h de ce même samedi. Notre or, c'est 122 kilos. Sa valeur, 3 milliards 600 millions. C'est inadmissible. C'est étonnant. On attend des réponses. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu encore d'informations sur le colis. Mais l'État est là. C'est lui notre garant. On compte sur lui. Nous sommes au gouvernorat ici pour que la justice soit faite.
5 morts, c'est le bilan de l'effondrement d'un puits hier nuit sur le site orifère artisanal de Dainissa, région de Maradi. Bien que le site soit fermé sur instruction du gouvernement nigérien, des individus arrivent à s'infiltrer selon le maire de la commune. Adam Mugerou indique que les forces de défense et de sécurité continuent de surveiller le site. Il est au téléphone avec Mohamed Maman.
Hier, vers 2h, des gens qui ont envahi le site et qui vont chercher à rentrer dans les crimes-là. Donc, malheureusement, il y avait un type qui s'est effondré, il y avait une mort d'homme. Il y avait à peu près 5 personnes qui ont perdu leur vie. C'est des gens du Nigeria. Vous avez l'affaire de l'heure qui est comme ça. Chaque fois, ils font de leur vie, mais malheureusement, ils arrivent à s'infiltrer. Bon, ils sont en train de garder les sites, les maisons ont été prises. Sinon, au niveau de Fandago, là, on a dégagé ceux qui sont. On a démoli leur. Je ne sais pas encore par quel osmose ils sont venus hier, ils les ont attaqués. Hier, même aujourd'hui, il y avait un conseil de sécurité et avec des mesures, donc des mesures de renforcement, parce que déjà les mesures sont prises en train de renforcer encore la sécurité.
La suite de ce journal, hier dimanche, le maire de la commune rurale de Gamou, Birnin Kazoué, dans le département de Gouré, a convoqué une réunion avec toutes les couches sociales pour faire part de la décision du gouvernement d'interdire la vente du carburant fraudé. Boukari Jibrilou a exhorté la population à plus de coopération avec les forces de sécurité pour mettre fin au fléau. Il est au micro de Ibrahim Mozo.
Le gouvernement fait de son mieux nuit et jour à l'endroit de nos populations pour vivre tranquillement. Malheureusement, les bandits persistent à leur faire du mal et c'est un devoir pour l'État de sécuriser la population. C'est pourquoi chaque jour, il fait des réflexions et parmi ses analyses, il s'est avéré que cette fraude d'essence permet à ces malfaiteurs de commettre leur forfait. Pour cette raison, le gouvernement nous a adressé un message pour expliquer à la population que chacun apporte sa contribution pour qu'il n'y ait plus de fraude de carburant dans notre pays. Si cela se fait, ces bandits n'auront pas la possibilité de circuler comme ils veulent. En ce qui concerne les autres dispositifs, on est là-dessus. C'est pourquoi nous avons dit que tout celui qui exerce cette fraude, qu'il la laisse. Ça n'a aucun intérêt en ce moment et c'est une loi. Et quand on dit loi, celui qui emprunte subira la rigueur de la loi.
Dans le département de Sahi, région de Tillabéri, c'est la reprise du chemin de l'école qui s'annonce pour environ 4000 élèves dont les établissements ont été fermés en 2021 pour cause de sécurité. Ils retrouveront les bancs le 15 février 2022, selon le préfet de Sahi, Barmini Kaboye, interrogé à Filengue par Adama Dawaki en marge du festival de Kinissa. On l'écoute.
La commune de Ourizelajo a 40 écoles fermées et Tamou a 21 écoles fermées, totalisant environ un effectif de 4000 élèves. Lors de notre dernière rencontre, dans le cadre du conseil départemental élargi, nous avons pris des dispositions par rapport à cette situation. Le dédain revenant de Tillabéri m'a apporté une information vraiment très importante, disant que l'État, avec les partenaires, ont pris l'engagement d'ouvrir ces écoles fermées à travers des regroupements à Tamou et à Sahi. Donc deux regroupements qui seront à Cantine. Chaque parent va choisir le regroupement de son choix et ils vont rentrer, Inch'Allah, à partir du 15 février. Et l'État a pris l'engagement d'appuyer ses enseignants pour les motiver afin qu'ils puissent faire des cours supplémentaires pour que, dans un délai vraiment simple, le retard perdu soit au maximum minimisé.
Comment la représentation nationale peut aider les personnes handicapées en matière de chances dans le budget et les lois? C'est l'objectif d'une rencontre jeudi dernier entre le bureau de la Fédération nigérienne des personnes handicapées et le président de l'Assemblée nationale. Le président du Parlement nigérien a pris la décision de nommer très bientôt un conseiller chargé de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Madougou Abdoulkarim, membre de la Fédération, explique au micro de Habibou Garba.
L'une des mesures phares que le président de l'Assemblée a pris suite à notre audience la semaine passée, c'est de nommer un conseiller en charge exclusivement des questions de l'inclusion des personnes handicapées. Il a demandé à ce que ce travail soit fait assez rapidement dans les prochains jours ou au plus tard dans les prochaines semaines. Déjà, un nom a été transmis au président de l'Assemblée nationale et il a déjà instruit son cabinet pour lui proposer donc le document de nomination d'un conseiller. Donc, vous voyez que le travail est déjà en cours et nous attendons dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, la signature simplement du président de l'Assemblée nationale pour que ce conseiller soit mis en place et qu'il commence à travailler.
La coordination régionale Tournant la page de Niamey a animé samedi soir un point de presse à la maison du citoyen. Le coordinateur a manifesté son incompréhension concernant l'interdiction de leur marche prévue dimanche 30 janvier. Sur le même point, il interpelle l'État sur ses engagements pris envers les acteurs de la société civile. Moudi Moussa est au micro de Mokhtar Hamadou.
Il vous souviendra que la coordination régionale Telpe Niamey avait depuis la semaine passée introduit une déclaration de manifestation à l'effet donc de se voir autorisé de manifester à travers donc une marche civile de meeting projetée pour ce dimanche 30 janvier 2022. Cela malheureusement n'a pas été du goût des autorités de la ville de Niamey, en tout cas à travers la dernière décision donc l'interdiction de cette marche. C'est que nous voudrions souligner ici, c'est que cette décision effectivement des autorités de la ville de Niamey remet carrément en cause les engagements solennellement pris par le président de la République lors de sa rencontre avec les acteurs de la société civile, où il disait que, en tout cas, il ne cautionnerait plus des entraves à la jouissance donc de certaines libertés fondamentales.
Autre aspect de ce journal, cette année, avec le déficit de la pluviométrie, plusieurs mares du département de Birnin-Koni sont sèches. Cela a pour conséquence la rareté du poisson. Les pêcheurs de la localité se plaignent de la situation, comme l'explique Nahanji Mekihi, membre de l'association des pêcheurs du département de Koni, au micro de Asman Moussa Arzika.
De toutes ces années écoulées, nous n'avons jamais été confrontés à un tel manque de poissons comme cette année. Aujourd'hui, la mare de Tcherassa est complètement sèche. Pour celui qui a besoin d'un ou deux kilos de poissons, il va tout de suite à Tcherassa. Voilà que cette mare s'est asséchée. Aussi, il faut le rappeler, toutes les espèces de poissons, c'est à la mare de Tcherassa qu'on vient les prendre pour amener dans d'autres mares. Alors aujourd'hui, la source est tarie en raison du manque d'eau. Pour la mare de Roahi, cela fait 4 à 5 ans qu'elle n'est plus. La mare Challa également. La même chose pour Touboula. Quant à Kourfey, elle est fermée. L'on a pensé qu'avec la fermeture, les choses allaient être meilleures. Mais hélas, le poisson aujourd'hui nous parvient de Douti. Et là-bas, avec ce vent et cette fraîcheur, il est difficile aux pêcheurs de plonger dans l'eau. Et si l'on ne gagne pas, on ne peut pas avoir le courage de continuer.
Au Niger, il existe trois types de luttes, celle traditionnelle connue par tous, celle des Boudouma de Difa et celle pratiquée par les Touaregs de Bonkoukou de la région de Tillabéri. Comment se pratique cette dernière? Cheb Souley Alio, entraîneur régional de Tillabéri, répond au micro de Farid Bourema.
La lutte de Bonkoukou, c'est comme la lutte traditionnelle. Mais là, on essaie d'attacher une corde au pied des deux lutteurs. Cela prouve que ce lutteur-là ne peut pas s'enfuir comme se fait ailleurs quand tu vois que l'adversaire est plus fort ou plus combattant que vous. C'est 5 minutes de combat. Dans le cas où il n'y a pas victoire, on va pour une pause de 2 minutes et on reprend 5 minutes encore. Dans le cas où il n'y a pas aussi victoire là-bas, cela veut dire que les deux lutteurs sont vaincus sur le terrain. Après la saison pluvieuse, quand il y a une bonne récolte, vous savez, en ce moment, les lutteurs ont beaucoup mangé le mil et ils sont forts. C'est en ce moment que cette lutte se pratique.
Et du football, en bref, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football se poursuit au Cameroun. Les quarts de finale ont été joués le week-end. Sur les 24 pays qui ont démarré la compétition le 9 janvier, il ne reste que 4 équipes. La première demi-finale opposera mercredi à 20h le Sénégal au Burkina Faso. Et jeudi, le Cameroun, pays organisateur, jouera contre l'Égypte toujours à 20h. Une équipe parmi ces 4 pays soulèvera le trophée de la CAN 2022 dimanche prochain. Le magazine de ce journal, selon l'article 1108 du Code civil nigérien, plusieurs conditions sont à remplir pour qu'un contrat soit valable. Il s'agit du consentement qui ne doit pas être vicieux, de la capacité à contracter et aussi le contrat doit reposer sur une base réelle et licite. Et si ces conditions ne sont pas respectées, le contrat est nul. Ayouba Hassan, magistrat, est interrogé par Balkis Hamidou.
Est-ce que les contrats peuvent varier en fonction des besoins exprimés par les parties?
Il y a plusieurs types de contrats en fonction des besoins exprimés par les parties. On donne les différentes clauses en fonction de ce que la loi a prévu, les parties essaient d'imaginer le type de contrat qui correspond donc à leurs attentes. Ces contrats sont soumis quand même à des conditions de validité.
Quelles sont les conditions de validité du contrat?
C'est l'article 1108 du Code civil qui énonce différentes conditions-là. La première condition, c'est effectivement le consentement. Ça veut dire que chaque partie est tenue donc de donner en toute connaissance de cause son accord pour la signature de ce contrat. C'est ce qu'on appelle le consentement. Donc le consentement ne doit pas être vicié. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de cause qui remette en cause ce consentement de cette partie-là. Donc c'est ça la première condition, le consentement de la partie qui s'oblige. Deuxièmement, il y a aussi ce qu'on appelle la capacité à contracter.
Qu'est-ce qu'on entend par capacité à contracter?
Ça veut dire que vous avez cette aptitude légale à signer un contrat, ce qui n'est pas, par exemple, le cas des mineurs ou des interdits comme les démons. Eux, là, ils n'ont pas cette aptitude légale de se contracter. Donc, il faut que la personne juste donc de cette capacité à contracter. La troisième condition, c'est l'objet certain. Ça veut dire que le contrat doit porter sur quelque chose de réel. Il ne doit pas être virtuel. Donc, la chose sur laquelle porte le contrat. Et enfin, la troisième condition, c'est la cause. Donc, ça veut dire la raison pour laquelle donc, les parties s'engagent dans un contrat. Cette cause-là doit être licite.
Dans quel cas on peut dire que le contrat est nul?
La loi dit que le contrat est nul si la cause contraire à la loi ou aux bonnes mœurs. Par exemple, tout ce que la loi interdit dans le commerce ne doit pas faire l'objet d'un contrat. Donc, cette cause-là doit être licite. pour que le contrat soit valable. Voilà donc les quatre conditions de validité du contrat en vertu de l'article 1108 du Code civil.
Fin de ce journal, merci de votre attention.